Dis-moi, t'aimerais faire quoi quand tu seras plus grande ? Moi, quand je serai grande, je serai... Et toi ? Quand je serai grande, un podcast RLP par Hélène Grillon. Bonjour les amis, c'est Hélène Grillon. J'espère que vous allez bien et que l'épisode précédent vous a plu. Aujourd'hui, je vous emmène explorer le Paris bouillonnant de la Belle Époque pour un rendez-vous haut en couleur avec une femme qui a fait tourner toutes les têtes. Icône du cabaret et reine du French Cancan, notre héroïne a illuminé la scène du Moulin Rouge dès 1890 avec ses coups de jambes vertigineux et son énergie explosive. Provocante, elle n'a eu de cesse de s'amuser des carcans de l'époque. Ses jupons relevés, son regard singulier et son tempérament de feu ont scandalisé autant qu'ils ont fasciné. Toulouse-Lautrec l'a même immortalisée sur ses célèbres affiches. Mais la fin de sa carrière s'est pourtant faite sans éclat, loin des froufrous et du business du divertissement. Qui était vraiment cette femme au caractère indomptable ? C'est ce que je vous propose de découvrir dès maintenant. Alors sans plus attendre, partons à la rencontre de cette danseuse incroyable de la scène française, j'ai nommé La Goulue, ou crier haut et fort sa joie de vivre. Lors de cette soirée au Moulin Rouge, elle avait non seulement ébloui tout le public, mais aussi les yeux du prince de Galles. Edmond Heuse, qui dansait avec elle, évoque pour la radio La Goulue en ces termes. « Je n'ai jamais vu d'égal. Elle n'était pas une danseuse, elle était la danse. » La danse a toujours été chevillée au corps de La Goulue, depuis qu'elle est toute petite. Tout commence en juillet 1866, aux portes de Paris, à Clichy-la-Garenne, lorsque Dagobert et Madeleine Weber accueillent une charmante petite Louise Joséphine, pleine de joie de vivre. Lui est un charpentier d'origine alsacienne et elle travaille sans relâche comme blanchisseuse. La petite Louise est la troisième d'une fratrie de cinq enfants. Mais lorsqu'elle n'a que 3 ans, sa mère quitte la maison et laisse les 5 enfants derrière elle à la garde de leur père. Loulou, comme on la surnomme, garde pourtant la tête haute et reste une petite fille pleine de joie. Elle danse tout le temps, tellement elle aime ça. À seulement 6 ans, on raconte que Dagobert l'emmène souvent dans des bistrots ou des banquets, où elle montre toute l'étendue de sa passion au public. C'est juste plus fort qu'elle. Dès que la musique se met à jouer, Louise se sent pousser des ailes. Mais quelques temps plus tard, Dagobert décède et la fratrie se retrouve orphelin à un si jeune âge. Louise est donc recueillie par son oncle qui habite à Saint-Ouen. Désormais ado, elle se fait un peu d'argent en tant que blanchisseuse. À l'époque, de nombreuses filles exercent ce métier. Puis quand vient le soir, après une longue journée épuisante à l'usine, Loulou profite de la nuit parisienne pour aller danser tous les soirs à la Butte Montmartre. Elle se rend souvent dans les hauts lieux de la danse comme le Moulin de la Galette, le Chat Noir. Et puis Montmartre, c'est ce fabuleux endroit qui commence à grouiller d'artistes. De nombreux peintres encore inconnus à l'époque, comme Renoir par exemple, installent ici leurs valises. Montmartre se transforme ainsi en repère des arts en tout genre où chacune et chacun s'inspire des autres. La spécialité de Louise Weber, c'est le chahut, ou autrement appelé le cancan. Au-delà d'être l'emblème par excellence de la danse française, le cancan est surtout une danse transgressive. Au début des années 1800, il est bien entendu acté que les femmes ont interdiction de laisser transparaître la peau au-dessus de leurs chevilles. La police des mœurs se balade même dans le tout Paris pour vérifier que les femmes respectent les règles. Et c'est complètement le contraire dans le cancan. Cette danse frénétique, pleine de joie et brillante, va permettre à de nombreuses danseuses, et par extension de nombreuses femmes, de braver la loi et de se sentir enfin libres de leurs mouvements. Mais revenons à notre fabuleuse artiste à qui on doit la maternité d'une figure les plus connues du French Cancan, le fameux coup de cul, une cathédrale de jupes soulevées. Dès 1884, elle se produit sur des scènes plus professionnelles comme la Closerie des Lilas, le Bal Bullier ou encore la célèbre Élysée-Montmartre. Et quelques années plus tard, elle est repérée par les pères de l'enseigne de danse la plus célèbre de toute la capitale, le Moulin Rouge. En 1889, Charles Zidler et Joseph Holler ont tous deux le souhait d'ouvrir un établissement où les Parisiens pourraient profiter d'un spectacle tout en buvant des coups. Et c'est comme ça que le célèbre Moulin Rouge est né.
Moulin des amours, tu tournes tes ailes au ciel des beaux jours, moulin des amours.
Pour le show, les deux patrons engagent des danseuses dont Louise, dont on raconte qu'elle enflamme les salles de spectacle comme personne. Rapidement, elle est nommée meneuse de revue et se retrouve à la tête de sa propre compagnie de danseurs. Avec ses camarades la Môme Fromage, la Sauterelle, Nini Patenlair ou encore Grille d'Égout, elle charme toute la butte Montmartre et tout Paris. Dans cette troupe, il n'y a pas que des danseuses, il y a aussi des danseurs dont Fil de Fer, Grille Tout et surtout le partenaire de danse de Louise, Valentin le Désossé. Malgré tout, c'est la fameuse Goulue qui sort de l'ordinaire et qui va devenir la tête d'affiche du Moulin Rouge. Elle n'est pas le faire-valoir en plus d'un partenaire de danse, c'est certain. Alors pourquoi la Goulue comme nom de scène? En effet, la presse de l'époque ne salue pas sa beauté, quitte même à la dénigrer. On peut notamment lire dans un numéro du Figaro de novembre 1885 ces quelques lignes, je cite. « La Goulue est une pompadour canaille, rose et joufflue qui vit pour manger. Sa frimousse est comme barbouillée de confiture. » On passera sur la sévérité de ces mots. Néanmoins, il est vrai que Louise a un appétit sans limite, autant des bons plats que de la boisson à foison. On raconte d'ailleurs qu'elle finit les fonds de verre des clients après les spectacles. Mais surtout, elle clame haut et fort son caractère de bon vivant. Ce qui fait surtout son succès, c'est sa parole insolente et son ton provocateur. La Goulue, elle ose et elle ne mâche pas ses mots, peu importe qui elle a en face d'elle. Riche bourgeois ou pauvre ouvrier, pour elle, aucune différence. D'ailleurs, il existe une anecdote qui résume bien ça. Alors que le fils de la reine Victoria, le futur Édouard VII, arrive au Moulin Rouge, la Goulue l'interpelle en ces mots. Hey, « Hé, Gal, tu paies le champagne? C'est toi qui régales ou c'est ta mère qui invite ?» Voilà, sans filtre. Cette vision, elle la partage aussi avec un ami très cher à elle qui lui restera fidèle jusqu'à sa mort, le peintre Toulouse-Lautrec. Impossible d'évoquer la vie de la Goulue sans parler de lui. Il est d'ailleurs l'auteur de l'affiche du Moulin Rouge sur laquelle on peut voir le duo formé par la Goulue et Valentin le Désossé. Avec Lautrec, elle partage cette méprise de la société bourgeoise conventionnelle qui ne pense qu'à elle. Et dans cette belle amitié, l'un inspire l'autre, et surtout tous deux s'admirent. la goulue voue une confiance aveugle au regard du peintre, qui l'immortalisera à plusieurs reprises dans ses œuvres. Nous sommes alors en 1890. Une belle amitié, une carrière au sommet, Louise Weber est désormais l'artiste la mieux payée de toute la scène parisienne. Avec cet argent, elle se met confortablement à l'abri et s'offre une maison sur les bords de Seine et un hôtel particulier sur les Champs-Élysées. La goulue a envie de partager sa joie de vivre avec son entourage comme bon lui semble.
Put down the knitting, the book and the broom. It's time for a holiday. Life is a cabaret, old chum. Come to the cabaret.
Cinq ans plus tard, enceinte d'un père de passage, elle donne naissance à son fils Simon Victor. Elle parie également sur sa notoriété et décide de quitter les planches du Moulin Rouge pour lancer sa propre petite entreprise artistique. Elle installe, dans une maison de la Foire du Trône, une mini-scène, décorée par son fidèle ami Toulouse-Lautrec, et se produit dans un numéro de danse orientale, aux côtés d'une certaine Aïcha, de son vrai nom Emma Saïd, qui est en réalité la grand-mère maternelle d'Edith Piaf. La goulue, dans une danse orientale, ne convainc pas vraiment les foules. Alors elle tente autre chose, cette fois-ci dans le milieu des arts forains. Elle devient dompteuse et achète une ménagerie conséquente pour produire ses shows. Parmi les bêtes, des panthères, des lions, un ours ou encore une hyène. Mais encore une fois, rien ne se passe comme prévu. Et au bout du compte, la goulue se retrouve complètement ruinée. La papesse du cancan dont on acclamait le nom n'est plus que Madame Louise, une Parisienne parmi tant de Parisiens. En haillons, elle traîne sa roulotte partout dans la capitale et tente de survivre en exerçant plusieurs métiers. À l'époque, on peut la croiser dans la rue en train de vendre bonbons et cigarettes. Pendant un temps, elle travaille aussi en tant que domestique dans une maison de passe. Mais en janvier 1929, à seulement 62 ans, elle meurt d'une hémorragie cérébrale.
Au coin d'une rue. La lune trop blême.
Son corps est alors inhumé au cimetière parisien de Pantin, entouré de peu de témoins. Mais sous l'initiative de son arrière-petit-fils Michel Souvé et de Jacques Chirac, alors maire de Paris, elle est enterrée au cimetière Montmartre en 1992. Après des années de séparation, elle est enfin réunie avec son quartier de cœur, celui qu'il a vu grandir en tant que légende de la scène française. Je finirai ce portrait de la goulue par ces quelques mots d'Edmond Heuse, le danseur qu'on a évoqué un petit peu plus tôt. Je cite « Quand elle dansait, elle amenait à la fois le feu du trottoir et une forme de joie intérieure qui faisait qu'elle était très 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 spéciale. C'était quelque chose qui brûlait les planches. »
Petite monigote, je sens ta menotte qui cherche ma main.
En somme, cette impératrice de la culture à la française a trouvé ce qu'elle voulait faire quand elle serait grande.
J'oublie mon chagrin.
Voilà, rien que ça. Je vous remercie à toutes et tous d'avoir écouté ces quelques minutes passées en compagnie de la flamboyante goulue. J'espère que cela vous a plu. C'est le moment de conclure cet épisode, mais pas de tristesse car je vous donne rendez-vous dans 2 semaines avec la première femme qui a conquis le sommet de l'Everest dans une expédition 100% féminine. Du Kilimandjaro à l'Aconcagua, elle est également la première femme à avoir réussi le défi des 7 sommets. Avec une volonté d'acier, elle va rendre l'alpinisme professionnel accessible aux femmes en créant un club entièrement féminin. Notre prochaine héroïne a donc marqué l'histoire du sport de haut niveau d'une trace indélébile. Une rencontre qui s'annonce donc incroyablement passionnante. Alors en attendant de nous retrouver, restez curieuses et curieux. À bientôt sur RLP.